Chapitre 47. Adrienne. Avant. Il est bien plus de minuit lorsque l'Audi s'arrête devant chez moi. C'est la même voiture que celle de mon ancienne agente, Paige, mais elle appartient à Patricia. Je suis sûre qu'il s'agit d'un cadeau de ses parents. Il la gâte horriblement depuis qu'elle est revenue de ce chalet, trempée et couverte de sang. De ma fenêtre, je regarde Patricia sortir de sa voiture, vêtue d'une fine robe rouge moulante qui couvre à peine ses sous-vêtements. Elle claque la portière avec plus de force que nécessaire. J'ai définitivement démonté la caméra qui visait la porte d'entrée pour qu'il n'y ait aucune trace des personnes qui entrent et sortent de la maison ce soir. J'ai compris que Patricia me mentait dès son tout premier rendez-vous. Je ne veux pas dire qu'elle n'était pas une bonne menteuse, car elle l'est. Elle sait y faire même. Mais je suis encore plus douée pour repérer les indices qui montrent que quelqu'un ne dit pas la vérité. Comme Eugie, Patricia a un tic. Quand elle va mentir, elle croise sa jambe droite sur sa jambe gauche. Je soupçonne le détective qui a traité l'affaire de savoir qu'elle mentait également. Mais c'est une chose d'en avoir l'intime conviction, et c'en est une autre de le prouver. L'inspecteur Gardner n'a pas pu prouver que Patricia avait tué son fiancé et deux de ses amis les plus proches. Elle s'en est donc tirée. Et, comme si ce n'était pas suffisant, elle a été portée au nu comme la victime qui s'en est tirée. Seulement, Patricia Lawton n'est pas une victime. Lorsqu'elle a découvert que son fiancé la trompait avec sa meilleure amie, elle les a punis tous les deux. Au cours des trois dernières années, j'ai officieusement diagnostiqué chez elle un trouble de la personnalité antisociale, sur la base de son manque d'empathie pour les autres, de son comportement agressif et criminel, ainsi que de ses antécédents de mensonges et de duperie. Comme beaucoup d'autres personnes souffrant de troubles de la personnalité antisociale, Patricia est charmante et attirante, dotée d'une intelligence supérieure à la moyenne. Sans ses atouts, elle ne s'en serait peut-être pas tirée. Au fil des ans, plusieurs indices ont corroboré mon diagnostic. Lorsque sa grand-mère est décédée d'une crise cardiaque l'année dernière, elle a pleuré des larmes très convaincantes pendant notre séance, en omettant de mentionner que c'était elle qui aidait mamie à prendre ses médicaments pour le cœur. Je ne l'ai découvert que lorsque j'ai appelé Madame Lawton pour lui exprimer mes condoléances. Elle n'a pas non plus mentionné le patrimoine considérable dont elle a hérité. Lorsque j'ai interrogé Patricia à ce sujet lors de la séance suivante, elle a croisé sa jambe droite sur sa jambe gauche et m'a dit combien elle se sentait mal d'avoir peut-être confondu les médicaments de sa grand-mère. Madame Lawton a toujours été une mine d'informations sur l'histoire mouvementée de sa fille. Les blessures mystérieuses des camarades de jeu. Les animaux de compagnie morts subitement. La pauvre Tricia n'a vraiment pas eu de chance. À un certain niveau, je suis sûre que Madame Lawton sait qui est réellement sa fille. Cette femme n'est pas stupide. Mais le déni est un mécanisme de défense puissant. Je percevais le soulagement dans sa voix lorsqu'elle me racontait ses histoires. Elle se déchargeait enfin du poids de ses responsabilités en me les transmettant. Et je savais exactement quoi faire de ces informations. Lorsque j'ouvre la porte d'entrée pour accueillir Patricia, elle n'a pas l'air contente. Elle tire sur sa jupe trop courte et me fusille du regard sous les lumières du perron.
« Il est dans la voiture. »«
Toujours dans les vapes ?»«
Oui, mais il se réveille. »«
Vous avez eu du mal ?»«
Non, c'était facile. »
Bien que très en colère contre moi, je crois que d'une certaine façon, Patricia a apprécié le défi que je lui ai lancé. Elle s'est habillée comme une poupée gonflable, s'est rendue au casino et installée à côté de J à la table de poker. Comme dans son fantasme, elle ne lui a même pas dit son nom. Puis elle l'a attiré dans son véhicule avec la promesse de le ramener chez elle. Je lui avais indiqué exactement quoi dire. Pendant le trajet en voiture, il a dû être de plus en plus somnolent à cause de ce que Patricia avait versé dans son verre au casino, jusqu'à finir par perdre connaissance. Sans rire, c'est de plus en plus facile à chaque fois que je drogue J. On aurait pu penser qu'il le verrait venir à force. « Vous avez réglé la note de son hôtel ?» je demande. Elle regarde ses ongles, peints en rouge sang.
« Oui, j'ai utilisé son téléphone. Et j'ai déplacé sa Porsche sur un autre parking où on peut rester garé longtemps. Il a payé pour un mois. »
Eugène n'a ni ami ni travail. Ses parents sont morts. Personne ne s'apercevra de sa disparition avant des semaines, voire des mois. Je suis Patricia jusqu'à son Audi. La silhouette sombre d'un homme occupe la banquette arrière. C'est lui. Elle l'a fait. Elle l'a vraiment fait. Elle a fait ce que Luke ne pouvait pas ou ne voulait pas faire.
J'ai scotché ses mains ensemble, me dit-elle. Les jambes aussi, avec un peu plus de jeu pour qu'il puisse marcher. J'en ai collé un morceau sur sa bouche, mais on peut pas le voir parce qu'il a le sac sur la tête.
Elle a des tripes, je dois l'admettre. Elle a fait tout le trajet depuis le Connecticut avec un homme attaché sur le siège arrière. D'accord, c'était au milieu de la nuit. Mais si elle s'était fait arrêter, ça aurait été la fin.
Je l'ai attaché il y a seulement 20 minutes,
ajoute-t-elle, comme si elle lisait dans mes pensées.
Il a commencé à s'agiter et je n'ai pas voulu prendre de risques.
Son téléphone ? Patricia fouille dans son sac à main et le sort. Elle lâche l'appareil dans ma paume ouverte. Je louche sur l'écran noir dans l'obscurité. Vous l'avez éteint ?
Oui, mais j'ai entendu dire qu'ils parviennent parfois à suivre un téléphone éteint tant qu'il a de la batterie. Donc soyez prudente.
Je serai très prudente. J'ai bien l'intention de pulvériser ce téléphone jusqu'à ce qu'il soit méconnaissable. Lorsque nous nous approchons, je vois le sac en papier sur la tête de J. Le papier se froisse légèrement lorsqu'il se déplace sur son siège. Difficile de savoir s'il est réveillé, puisqu'il est immobilisé. J'aimerais assez qu'il soit réveillé pour la suite. Patricia ouvre la portière arrière. Maintenant, je vois le ruban adhésif qui maintient les mains de J l'une contre l'autre. Elle lui donne un coup de pied dans le mollet avec ses talons hauts, assez fort pour laisser un bleu.
« Debout !»
lui aboie-t-elle. Il relève brusquement la tête, mais il ne peut pas sortir de la voiture sans aide. Elle lui donne un nouveau coup de pied. Il gémit, mais ne bouge toujours pas. Finalement, je lui attrape les jambes et les fais glisser à l'extérieur du véhicule. Il ne peut toujours pas se lever seul, ce qui nous oblige toutes les deux à le hisser sur ses pieds. Des bruits étouffés proviennent de l'intérieur du sac en papier. Son t-shirt gris clair présente des taches de sueur sous les aisselles. Nous le faisons entrer dans la maison, puis dans le bureau. À cause de ses chevilles partiellement liées, il n'a pas d'équilibre et doit marcher à petits pas traînants. Lorsque nous entrons dans le bureau, Patricia s'arrête net. Elle regarde autour d'elle.
« Vous avez changé quelque chose ici ?»«
Non. » Elle penche la tête sur le côté. Elle est certaine que quelque chose est différent. Toutefois, elle n'arrive pas à mettre le doigt sur ce que c'est. Moi, je sais. J'ai déplacé le canapé. Mais elle n'a pas besoin de le savoir. Il vaut même mieux qu'elle ne le sache pas. Une fois dans le bureau, j'essaie de faire asseoir Eugie sur le canapé, mais entre le ruban adhésif au poignet et aux chevilles et le sac sur la tête, il le rate complètement et s'écrase durement par terre. Patricia fronce les sourcils.
« Vous voulez que je vous aide à le relever ?»
demande-t-elle. Je secoue la tête. C'est plus facile qu'il soit par terre. « Non, c'est bon. Vous pouvez partir maintenant. » Elle plisse les yeux.
« Qu'est-ce que vous allez faire ?»«
Ce n'est pas votre problème. » Elle tape l'un de ses talons sur le parquet. S'il avait été 50 centimètres plus à gauche, elle aurait entendu la différence de son que faisait le sol et découvert mon secret.
Je crois au contraire que c'est en partie mon problème. C'est moi qui l'ai amené ici après tout.
Ne vous inquiétez pas, dis-je. Je vais m'en occuper.
Ça ne me dérange pas de vous aider. Comme le dit toujours ma mère, si nous nous aidions toujours les uns les autres, personne n'aurait besoin de chance.
En mon fort intérieur, je parie qu'elle n'en a rien à faire en réalité. C'est bon, tout est sous contrôle. Une lueur de curiosité passe sur ses jolis traits.
Qu'est-ce que vous allez faire de lui ?
Je vous promets que personne ne le trouvera. Elle fait la moue une seconde, puis lève les mains.
Ok, faites ce que vous voulez, docteur Hale.
Sur un jeté de ses cheveux blonds par-dessus son épaule, elle quitte le bureau comme une furie. En sortant, elle lève les yeux vers le portrait qu'elle m'a offert et qui est accroché au-dessus de la cheminée. Elle me lance un regard dédaigneux.
Je n'arrive pas à croire que vous ayez accroché ce portrait géant de vous dans votre salon,
siffle-t-elle, narquoise.
Vous êtes bien aussi arrogante que je le pensais.
Je l'aime bien, je réponds d'un ton aimable. Je peux me permettre d'être agréable, maintenant que la source de tous mes problèmes gît entafroissée sur le sol de mon bureau. Je raccompagne Patricia jusqu'à ma porte d'entrée et la verrouille derrière elle lorsqu'elle est sortie. Patricia est venue chez moi à de nombreuses reprises au cours des 3 dernières années, mais c'est la dernière fois. Je ne demanderai pas d'autres services à cette fille. Elle se comporte comme une gentille, mais moi je sais qu'en vérité, elle est dangereuse. Et maintenant qu'elle est partie, je peux finir ce que j'ai à faire ici. Lorsque je reviens au bureau, Eugy est toujours allongé par terre. Il s'est réveillé cependant, et se tortille pour se libérer de ses liens. Heureusement, Patricia l'a très bien fagoté. Je m'approche de lui, me plante au-dessus de son corps agité. Enfin, je me penche et je lui arrache le sac en papier de la tête. L'adrénaline a eu raison des médicaments quels qu'ils soient que Patricia lui a administrés. Ses yeux sont grands ouverts et son t-shirt est maintenant trempé de sueur, alors même qu'il fait un peu frais ici. Ses lèvres bougent sous le ruban adhésif, mais aucun son intelligible n'en sort. Je regarde une tache sombre s'étaler entre ses jambes. Je m'accroupis à côté de lui. « Bonjour, vous. » Il émet un son étouffé derrière le scotch. Je plonge dans ses yeux gris, incapable de refouler un sourire. « J'ai réfléchi à votre offre, et j'ai décidé que vous aviez raison. J'aimerais beaucoup que nous passions un peu de temps ensemble, » je lui annonce, tout sourire. « Et je pense en effet que ce sera amusant, du moins pour moi. » Ses yeux sortent presque de leurs orbites. Je me demande si Luke apprécierait la situation autant que moi. S'il se tenait à côté de moi en ce moment, quelle serait sa réaction? Je ferme les yeux un instant. Je l'imagine. Je visualise le visage de Luke regardant Eugy étendu là, sans défense. Même dans mon imagination, Luke ne sourit pas. Il n'approuverait pas. Il n'a pas l'estomac pour ça. « Mon mec a rompu avec moi à cause de vous, vous savez ?» dis-je à Eugy. Ce n'est pas officiel, mais ça fait une semaine que Luke ne décroche pas quand je l'appelle, ne répond à aucun de mes SMS. Pas besoin d'être titulaire d'un doctorat en médecine pour comprendre. Il ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Apparemment, ma suggestion de commettre un meurtre a rompu notre contrat. Cela dit, je ne devrais pas être surprise. Les gens comme moi sont destinés à finir seuls. C'était un type formidable, j'ajoute, même si je ne suis plus très sûre que ce soit à Eugy que je parle. Il était gentil et intelligent, et il se fichait de mes défauts. Non, il ne s'en fichait pas, il les aimait bien. Il m'aimait pour tout ce qui n'était pas parfait chez moi. J'inspire à plein poumon, repoussant les larmes qui me montent aux yeux. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je l'aimais vraiment beaucoup. Je l'aimais, tout court. Et à cause de vous, je l'ai perdu. Parce que vous êtes un connard égoïste qui a décidé de foutre en l'air toute ma vie. J'y essaie de dire quelque chose. Peut-être, je suis désolée. Et ça pourrait aussi être, va en enfer. Difficile à dire avec le ruban adhésif sur sa bouche. Honnêtement, je me fiche de ce qu'il dit. Ça n'a pas d'importance. Je me redresse. Je prends mon élan et Eugy tressaille. Il a compris que je suis sur le point de lui donner un coup de pied dans le ventre. Et puis, à la dernière seconde, je me ravise. Au lieu de ça, je me dirige vers le coin de la pièce où se trouvait le canapé en cuir. Je l'ai déplacé ce matin. Un des détails qui m'a séduite dans cette maison lorsque je l'ai acheté, c'est le compartiment caché sous le plancher de cette pièce. L'agente immobilière m'en a parlé avec un sourire fier. Vous pourriez y cacher des objets de valeur. En effet, j'y ai gardé des choses au fil des ans, mais je l'ai vidé ce matin. J'ai besoin de toute la place possible. Il y a un minuscule crochet dans le parquet, à peine visible à l'œil nu tant il se fond dans le reste du plancher. J'y passe les doigts et je le soulève pour révéler l'espace à l'intérieur. Juste assez grand pour y loger un corps humain. L'agente immobilière me l'a dit aussi, mais elle plaisantait. Elle en a même ri. Savais-je, lorsque j'ai acheté cette maison, que je finirais par utiliser l'espace pour dissimuler un corps humain? Je l'ignore. À un certain niveau, j'ai dû y penser. Les yeux de J sont exorbités. Il sait ce qui va se passer, et il ne peut rien faire pour l'empêcher. Je lui souris. En fait, je ne pense pas que nous allons passer autant de temps que ça ensemble. Vous allez surtout passer beaucoup de temps tout seul, plutôt. Il me faut 3 roulades pour faire entrer Eugy dans l'espace sous le plancher. Il se tortille et donne des coups de pied tout du long. Mais Patricia l'a très bien attaché. Il ne peut pas se libérer. Dès qu'il tombe dans le trou, je vois la panique dans ses yeux monter de plusieurs crans. Je ne sais pas s'il s'est imaginé jusqu'au dernier moment que j'allais renoncer. Il crie maintenant, bien que le son soit atténué par le ruban adhésif sur ses lèvres. Je l'observe un instant, puis j'abaisse le panneau et dissimule la cachette sous le plancher. À nouveau, on ne voit même pas qu'elle existe, si on excepte les sons étouffés qui proviennent d'en dessous. Ça ne va pas du tout. J'avais l'intention de l'abandonner là et de laisser la nature suivre son cours, mais le risque est trop grand. Il est trop bruyant. Je prends donc le reste du rouleau de ruban adhésif que Patricia m'a donné et j'entreprends de coller les bords du panneau, ce qui a pour effet de couper l'alimentation en oxygène. Je m'assieds sur le canapé et j'écoute. Les sons étouffés s'atténuent. Ils ne ressemblent plus à des cris, des gémissements peut-être, des pleurs aussi, qui deviennent de plus en plus faibles, jusqu'à s'arrêter complètement. Au revoir, Edward.